12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Comment faire du mythe de Castor et Pollux une histoire qui nous parle de nous aujourd'hui? On verra ça avec le metteur en scène américain Peter Sellars tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais comme d'habitude, on commence par le plateau critique. Aujourd'hui, on parle d'une maison de poupées mise en scène par la marionnettiste Ingvild Aspeli et d'Orlando, opéra de Handel, mise en scène par Jeanne Desoubeaux. Voilà pour le menu du jour. Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux critiques du jour. Zoé Sfez, productrice de la série musicale sur France Culture.
Bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous.
Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture ici même.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à toutes les deux. On commence donc ce débat avec un classique, Une maison de poupées du Norvégien Henrik Ibsen. Mais c'est l'artiste, comédienne et marionnettiste Ingvild Aspeli qui s'en empare sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris. Et le Paris est beau. La plupart des personnages sont incarnés par des marionnettes grandeur nature actionnées par Ingvild Aspeli elle-même et de temps en temps par son complice Viktor Lukavski. Aspeli joue aussi Nora, celle dont on suit l'émancipation. Enfermée dans un foyer classique de la Norvège du 19e siècle, Nora réalise sa condition et la place qui lui a toujours été assignée. Et ce chemin qu'Aspeli explore, chemin entre cauchemar et fantastique, c'est en anglais, sous-titré en français. On commence avec un avis rapide de l'une et de l'autre, Marie Sorbier.
Moi je trouve que c'est une grande réussite ce spectacle, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que Ingvild Aspeli, elle adapte ce texte qu'on a beaucoup vu sur la mise en scène, des scènes publiques, en théâtre notamment, mais elle l'adapte avec une vraie intention, c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois où je revois cette pièce, ce texte, avec une vision différente qui est celle intimement d'Ingvild Aspeli, et ça c'est toujours très réussi. Et deuxième raison, parce que elle maîtrise l'art marionnettique comme peu de gens savent le faire, et elle fait beaucoup de bien à cet art que l'on méprise, je trouve, trop largement, alors que c'est un champ exploratoire artistique qui est génial, et elle le montre magnifiquement bien.
Zoé Sfez.
Je ne peux que souscrire. Faut quand même le rappeler, les marionnettistes et le théâtre d'objets, ça fait partie des plus belles choses et d'un espèce de lieu du théâtre extrême qui, quand on prend le temps d'y aller, vraiment à chaque fois est bouleversant. En l'occurrence, là, c'est vraiment fou. Ce spectacle dure 1h10 et c'est complètement dingue la densité de propos à laquelle on parvient en 1h10. C'est suffisamment rare pour être noté. J'ai un toute petite réserve, moi, sur le fait qu'on sacrifie un tout petit peu la langue d'Ibsen. C'est pas si grave, parce que c'est une pièce qu'on connaît tellement bien et qui a eu un rôle si important qu'aujourd'hui on peut effectivement s'en saisir. Dommage qu'il n'y ait plus la toute petite beauté ou préciosité de la langue d'Ibsen. C'est pas grave vu tout ce qu'on gagne et tout ce qu'on arrive à retirer d'une lecture qui est vraiment très contemporaine et en même temps absolument atemporelle.
Alors on va écouter un extrait de cette maison de poupées. Évidemment à la radio ça donne pas tout, mais quand même ça donne un petit peu le ton, l'ambiance.
Have you ever found yourself caught in a life that isn't really yours? Playing a role that really doesn't suit you? Having tried so hard to become the person that someone you really love really would love you to be, and you no longer know if you're still you or just playing a role?
Une maison de poupées mise en scène par Ingvild Aspeli avec ses marionnettes. C'est donc sur la scène du théâtre du Rond-Point. Marie Sorbier, qu'apporte justement cet art de la marionnette à cette pièce si connue, comme vous l'avez dit?
Alors là, je trouve que c'est l'idée de génie de cette pièce. C'est-à-dire que monter une maison de poupées en marionnettes, sur le papier, ça peut sembler étrange, parce que une maison de poupée, c'est vraiment le drame bourgeois par excellence. On est traditionnellement dans un appartement, dans une famille, la mère, Nora, le mari, les trois enfants, et puis le drame qui se joue et l'émancipation à la fin. Alors, pourquoi des marionnettes? Elle a répondu à cette question d'ailleurs de façon assez jolie. Ingvild Aspeli, elle dit, ça s'appelle maison de poupée, et moi je l'ai montée avec des pantins. Voilà, sa réponse est simple. Mais ce que traduisent les marionnettes, je trouve, c'est l'aspect plus psychologique de cette pièce. C'est-à-dire qu'on abandonne au fur et à mesure le drame bourgeois, qui est pour moi le moins intéressant de cette pièce d'Ibsen, encore une fois parce qu'il a été un peu rabâché et que peut-être qu'on en a assez. Or, ce qu'elle explore, elle, c'est la psyché, en fait. On est dans la psyché de Nora, cette mère de famille, famille, ce personnage principal. Et la marionnette permet, par un effet de double, de plonger dans l'intimité de cette femme. Alors, c'est un double par plusieurs raisons, parce que les marionnettes sont à taille humaine. Mmh. Elles sont manipulées principalement, par Ingvid Aspeli, mais elles sont sur scène quasiment tout le temps. Ce qui donne une impression assez étrange, parce que, par exemple, vous avez autour de la table le mari, le docteur, Nora et les enfants. Or, comme elle est quasiment seule à manipuler pendant les trois quarts de spectacle, il n'y a que, par exemple, le personnage de Nora qui s'anime. Mais les autres sont là. Comme ils sont à taille humaine, on a l'impression que ce sont des acteurs. Ils sont assez anthropomorphes. Hein. Ils ont des visages, d'ailleurs, des acteurs qui vont les manipuler. Et c'est très troublant, parce qu'on a l'impression de fantômes, de spectres. Et là, on s'enfonce, en fait, dans cette psyché cauchemardesque. On est très proche du cauchemar. Et c'est vraiment troublant, parce qu'elle arrive à faire sortir de ce texte et de cette pièce tous les ressorts beaucoup plus noir, beaucoup plus profond de ce que ça veut dire une émancipation, c'est-à-dire c'est pas juste allez j'en ai marre, je m'en vais et je vais vivre ma vie, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'elle triture d'abord toute la noirceur et lucidité nécessaire pour après s'émanciper. Et moi c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait elle traite moins de l'émancipation que de la noirceur qu'il faut et à quel point il faut aller profond en soi pour trouver les ressources pour s'échapper, et en ça le support marionnette est le support parfait, parce que elle leur donne vie au moment opportun dans la pièce, avec des mouvements absolument incroyables. Ingvid Aspeli, elle a été formée dans deux écoles françaises, à Charleville-Mézières, mm-hmm. qui est la grande école de marionnettistes en France, et chez Jacques Lecoq, qui est l'école de théâtre qui forme au mouvement. Et en fait, elle réunit maintenant sur le plateau les deux. C'est-à-dire qu'on la découvre d'ailleurs excellente comédienne, alors qu'habituellement, elle était vraiment uniquement manipulatrice, donc on avait moins ça en tête. Là, elle joue tous les personnages, elle module sa voix, c'est très impressionnant. Mais moi, ce que j'ai vraiment adoré, et là où je trouve la marionnette incroyablement puissante, c'est le mouvement des corps. C'est-à-dire que par moment, c'est l'actrice qui prend le lead, mais par moment, c'est la marionnette qui prend le lead sur l'actrice qui est en train de la manipuler. On est tout le temps dans ces mises en abîme-là. C'est fascinant. Psychanalytiquement, c'est fascinant.
Zoé Sfez. Ouais, je suis obligée de souscrire et j'irai encore plus loin. Alors effectivement, c'est vrai que moi je ne la connaissais pas avec une voix. C'est un spectacle qui est très sonore, vous l'avez entendu.
Oui, mais c'est très beau cette voix-là.
C'est très très beau et le son, l'apport du son est très fort aussi. Hein, dans la... Bon, évidemment, tout repose sur le son et la lumière, parce que la lumière est dosée avec des effets complètement fous, parce qu'on peut le dire, non seulement on sort du drame bourgeois, mais en plus on bascule effectivement totalement dans le fantastique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ces marionnettes qu'elle actionne, hein, parce qu'on le dit, elles sont là, elle est actionnée. Effectivement, ce qu'il y a de fou, c'est que déjà, quand on arrive sur ce plateau, et au bout de 5 minutes, on est conquis par ce parti pris. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, on va cesser d'être surpris. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que déjà, le parti pris est intéressant, et elle arrive, encore une fois, en 1h10, ils arrivent, et elles arrivent à nous surprendre. Parce qu'au début, on se dit, voilà, ça, on va être avec Nora. Nora, c'est quand même le personnage principal. Je rappelle quand même l'argument de cette pièce d'Ibsen. Cette femme qui partage une vie bourgeoise apparemment heureuse, alors qu'en réalité, elle était plutôt gay, qui se retrouve à emprunter de l'argent pour sauver son mari. Et elle le fait de manière illégale, notamment parce que comme elle est une femme, elle n'a pas le droit d'emprunter sans son mari. Donc c'est ça le côté drame bourgeois. Et en réalité, elle se retrouve à être, elle est victime d'un chantage de la part du type qui lui a prêté l'argent, qui disparaît. Il y a toute une forme de sous-intrigue qui disparaissent. Et se révèle alors à ce moment-là la vraie nature de son mari, qui, loin de voir en elle quelqu'un qui a voulu la sauver, ne la voit en réalité que comme sa femme et donc un objet de lui-même. C'est là que le théâtre d'objet est très bon, et considère qu'elle l'a trahi puisqu'elle lui a fait perdre son honneur. Effectivement, là, on va droit dans Nora. On se dit au début, tout ça, ça va être Nora vécue de la part de Nora. Et il y a un shift, il y a plusieurs shifts qui s'incarnent véritablement dans la marionnette. Et ça, c'est assez fou parce qu'on plonge dans la psyché, c'est vrai, et parce que le drame d'Ibsen, en fait, qu'on l'ait vu d'ailleurs ou pas, je pense que c'est vraiment ce genre de pièces qui ont énormément marqué à l'époque, 1879, parce que ce qu'il disait était bouleversant.
Elle a fait scandale, hein, cette pièce, d'ailleurs.
Elle a fait scandale, elle a été interdite en Angleterre, ouais. Parce qu'évidemment, en plus, à la fin, elle part et elle abandonne ses enfants, et en général, c'est ça qu'on retient. Là, d'ailleurs, tout ça est balayé, c'est pas la question. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'on se dit, d'accord, on va être dans l'intériorité de cette femme, et ces gens sont effectivement des masques, sont ce qui se passe dans son cerveau. Et puis, la beauté de la marionnette, c'est qu'à un moment donné, elle redevient l'objet. Alors qu'on se dit au début que les autres sont des objets, il y a tout ce rapport-là qui se met en place, avec au milieu de ça, quand même, la beauté d'un théâtre d'objets vraiment fondamental au cœur du spectacle, au mi-temps du spectacle, avec des figures qui sont des figures véritablement du cauchemar, l'araignée, et des figures en plus...
Alors l'araignée, va falloir falloir en parler un peu.
Quand ouais, même. On va en parler, mais on a toujours un peu du mal à le dire. Mais à un moment donné, Nora se transforme en araignée. L'araignée, en plus, c'est cette figure toujours très forte, féminine, l'arachnide, quelque chose de très souterrain, celle qui est dans les greniers de la psyché et de la mémoire. Et ça, je trouve que l'apport du fantastique à cet argument, qui reste un féministe et qu'on a réduit à la substantifique moelle du texte, quoi, produit quelque chose d'assez bouleversant.
L'araignée, ce qui est intéressant dans l'histoire de cette mise en scène, c'est qu'en fait, dans la pièce, il y a une mention à un moment donné d'une tarentelle. Donc Nora danse la tarentelle, tarentelle, tarentule, tarentule, araignée. Et en fait, elle fait des liens beaucoup comme ça, Ingvid Aspeli. L'araignée, c'est celle aussi qui tisse son fil. On parle de marionnettes. Alors là, ce ne sont plus des marionnettes à fil. Mais en tout cas, dans l'esprit, on a tout un lien comme ça, très concret, qui se passe avec les mots, ce que permet la marionnette moi qui me touche en fait beaucoup, ce qui est fou en fait dans cette pièce et dans les pièces de marionnettes réussies, j'entends des marionnettes pour adultes, c'est que comment on peut, nous spectateurs, être émus par un pantin. On est quand même devant un pantin de bois habillé. Il n'y a pas d'illusion, c'est-à-dire on les prend jamais pour des êtres vivants. On voit bien que ce sont des pantins et des marionnettes. Et pourtant, par le mouvement, par la voix, eh bien, ces objets émeuvent. Et moi, ça, je trouve que quand ça fonctionne, je trouve que ça a une puissance folle. Et on n'en voit pas assez au théâtre de ces marionnettes.
Jamais, alors qu'elles sont vraiment... on peut le redire, il y a toute une école, il y a un festival génial du théâtre d'objets en France. On invite tout le monde à aller le voir.
Tous les deux ans, une biennale.
Tous les deux ans, une biennale qui est vraiment... Qui donne
on
lieu...
On rappelle
où à Charleville-Mézières.
Capitale de la marionnette.
Dernier bout sur cette histoire de l'araignée, la tarentelle, c'est une danse qui vient du sud de l'Italie. Oui. Et c'est la danse qu'on faisait danser aux jeunes femmes qui étaient trop excitées, de facto, qui étaient hystériques, et c'était le seul moment où elles avaient le droit de sortir et de se déchaîner dans le corps. C'est ce qui se produit au mi-temps du spectacle. Ça apporte quelque chose de bien plus puissant à un texte d'Ibsen qu'effectivement on est peut-être parfois fatigué de lire ou de voir.
Alors justement, Zoé, vous disiez le petit bémol, c'est le texte d'Ibsen qu'on entend peut-être pas suffisamment.
En fait, évidemment qu'elle est obligée de restreindre à la substantifique moine, elle se débarrasse de la moitié de l'argument et de surcroît, elle est vraiment là pour... En fait, elle est obligée de ramener le texte à des espèces de lignes et des espèces de lignes d'État, puisque comme elle va donner à voir des prises de... Elle est obligée de resserrer le texte, ne subsiste de la langue d'Ibsen. Alors en plus, elle est en anglais, donc c'est compliqué parce que on n'est ni dans un texte original, ni dans une traduction littérale. Elle va garder des tout petits bouts, notamment dans la scène finale, 3-4 lignes qui sont les lignes les plus célèbres du spectacle, évidemment. Toutes les femmes l'auraient fait. Ce qui est un peu dommage, c'est que le texte d'Ibsen, quand bien même c'est un texte de dame bourgeois, il a quand même des images très fortes et des images très belles. J'ai l'impression qu'on n'entend même pas le mot maison de poupée. C'est ça qui est fou. Je crois que le terme de poupée, qui donne son nom à la pièce, n'est même pas là. C'est peut-être un tout petit peu dommage, dans le sens où le texte d'Ibsen, il a quand même une beauté, il a une précision dans le texte. Peut-être que tout ça s'est perdu dans l'entreprise, c'est pas si grave, parce que finalement, la précision de l'intention du texte arrive ailleurs, il arrive effectivement dans le mouvement, et la chose la plus importante, c'est que Nora a une voix. Nora a une voix, et le mari aussi, puisque sans dévoiler aucune intrigue, ce qui est fou, c'est le surgissement de figure, alors qu'on pensait avoir compris le dispositif. Ça, c'est assez beau.
Un tout dernier mot, Marie.
Un tout dernier mot très rapide. Elle cite Ingvid Aspeli, cette anecdote que je trouve géniale, d'Ibsen. Ils sont compatriotes, hein, et les deux sont norvégiens,
C'est pour ça qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas le texte en norvégien.
Alors, elle le dit en norvégien quand elle le joue en Norvège, mais évidemment, pour des histoires de tournée, c'est plus simple en anglais. Mais il y a cette anecdote géniale. La femme d'Ibsen, en fait, se fâche parce que Ibsen, normalement, la première version de la pièce, Nora reste dans cette maison. Et la femme dit à son mari, écoute, si tu la fais pas partir, moi, c'est moi qui te quitte et je m'en vais. Et Ibsen change la version de sa pièce et l'émancipation a lieu. Et je trouve qu'elle cite cette phrase sans pour autant la mettre en image sur la scène. C'est juste effleuré, je trouve ça très beau.
Une maison de poupée d'après la pièce d'Henrik Ibsen, mise en scène Ingvild Aspeli, Paola Risa, c'est jusqu'au 2 février au Théâtre du Rond-Point, puis il y aura une tournée. Les dates seront évidemment sur la page des Midi de Culture. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Marie Sorbier.
Oui, alors un grand coup de cœur pour un spectacle important. Alors grand parce qu'il dure 4 heures, je commence par là. Mais il ne faut pas s'attarder sur la durée, ou en tout cas, si, il faut y aller un jour où on est en forme. Voilà. Parce que, c'est un spectacle important, mais c'est un spectacle qui est aussi très exigeant. Exigeant dans le fond et dans la forme, comme toujours chez Christophe Warlikowski.
Alors il faut dire le titre et tout ça, on ne l'a pas dit, je crois.
Et Elisabeth Costello,
ouais.
C'est le titre, alors on va expliquer pourquoi. Et le metteur en scène, il s'appelle Christophe Warlikowski, c'est un des plus grands metteurs en scène vivants, metteur en scène polonais, que l'on voit régulièrement sur les scènes à Paris. Ce spectacle-là a été présenté dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon l'été dernier. Il clôturait le festival. Et donc, c'est une grande saga, une grande épopée, comme toujours chez Varlikovski, qui est, je trouve, magistrale en deux points. D'abord, dans le montage dramaturgique, parce qu'il est quand même spécialisé là-dedans, Varlikovski. Moi, je connais personne d'autre qui fait des montages dramaturgiques comme ça. Alors, certes, c'est exigeant, c'est un peu complexe, c'est ultra dense, je préfère le dire, mais quelle stimulation intellectuelle. Alors, je pense que je sais pas, j'ai dû capter 10% de ce qui se passait sur ces 4 heures, vraiment, mais ça me reste en tête, je l'ai vu en juillet, j'ai toujours des questionnements qui sont là, qui sont très présents, j'arrive pas à y répondre, je trouve ça mais foisonnant et vraiment passionnant. Alors, qui est Elisabeth Costello quand même? C'est un personnage fictif. Un personnage de Coetzee, ce prix Nobel de littérature sud-africain, qui le fait, Coetzee la fait revenir régulièrement dans ses romans depuis toute son œuvre. Varlikovski, de son côté, lui, a déjà utilisé le personnage d'Elisabeth Costello dans plusieurs de ses spectacles, dont dans Apollonia, qui était son grand chef-d'œuvre, qui lui aussi avait lieu dans la cour d'Avignon. Et là, il décide finalement, pour cette dernière création, de concentrer son spectacle sur Elisabeth Costello. C'est le titre du spectacle, très bien. Ce personnage fictif, c'est une écrivaine, polémiste, australienne, qui en fait raconte un peu tout ce qu'elle veut. Elle est invitée partout, elle a beaucoup de prix. Imaginez une espèce de Welbeck féminin australien. Enfin, vous voyez, donc il sort des grandes théories comme ça qui énervent tout le monde, mais en même temps, tout le monde l'adore. Ça, c'est le personnage fictif. Ce qui en fait une pièce troublante et qu'on voit, je trouve, rarement sur les scènes, c'est qu'en fait, c'est 4 heures d'interrogation sur la théorie littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire écrire ? Qu'est-ce qu'un personnage de fiction par rapport à un personnage de réalité? La grande affaire de ce spectacle, c'est ça. C'est le match fiction-réalité. Et je divulgue pas grand-chose en disant que c'est la fiction qui gagne. Varlikovski nous met vraiment devant en disant « ras-le-bol avec vos autofictions, le jeu JE premier au théâtre tout le temps, tout le monde raconte sa vie, le théâtre documentaire ». Lui, il prend vraiment tout ça à contre-pied et il nous met un grand spectacle de fiction et un grand spectacle de théorie littéraire. Alors voilà, il faut y aller en forme, mais ça vaut vraiment le coup. Et juste un dernier mot, je suis obligée de le dire parce que c'est un spectacle visuellement incroyable. Il est toujours entouré de la même scénographe qui est, bon, voilà, qui est connue notamment pour mettre toujours des salles de bain ou des sanitaires sur la scène. Hein. On voit toujours des bidets, des lavabos, voilà, des toilettes. Là, ça ne manque pas. Il y a des grands blocs comme ça qui bougent, comme toujours, qui laissent une place magnifique aux acteurs, acteurs polonais sublimes. Mais il y a une nouveauté dans ce spectacle de Varlikovski. C'est-à-dire qu'il y a un écran panoramique qui prend tout le fond de scène immense et qui n'est pas là pour filmer les acteurs, comme on peut voir traditionnellement aujourd'hui sur les scènes. Il est là, comme un espèce de papier peint immersif, qui nous trimballe d'un monde à un autre. Donc on est dans une salle universitaire, très bien. 2 secondes après, on est sur la banquise, parce que cette fameuse Elisabeth Costello, elle donne des conférences sur un bateau dans la banquise. Ensuite, on est dans une réunion de famille où elle a ses petits-enfants et qu'elle leur dit ce que c'est d'écrire. L'écran, je ne l'ai jamais vu utilisé comme ça, et c'est quand même une gageure, il faut aller voir ce spectacle, qui est à la Colline.
Voilà, Elisabeth Costello, Christophe Varlikovski, au Théâtre de la Colline, du 5 au 16 février.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Faites l'amour, pas la guerre. Sur la scène du Châtelet à Paris, Jeanne Desoubeau met en scène l'Orlando de Handel, un opéra en 3 actes créé en 1733. Orlando, c'est un chevalier partagé entre son devoir de faire la guerre et l'amour fou qu'il éprouve pour la reine Angelica, qui aime Médoro, lui-même aimé par Dorinda. À sa création, c'est le plus célèbre des castrats anglais qui interprétait Orlando. Aujourd'hui, le chef Christophe Rousset a confié le rôle à la mezzo-soprano Katharina Bradić. Quant à la mise en scène, elle déplace l'intrigue dans un musée livré au regard de quelques enfants. On commence avec Anna Virapizoe.
Spectacle qui ne manque pas à certains moments et surtout à la fin de vrais moments de beauté, mais qui pour moi pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets baroques? Et je crois que ce spectacle malheureusement échoue terriblement à faire ce qu'il entendait faire, c'est-à-dire séduire un public nouveau en essayant de faire de la modernité. Et pourtant, Dieu sait que je suis une grande partisane de la modernité dans les mises en scène de spectacles classiques. Là, il n'y a pas assez d'amour pour ce que c'est que le baroque et c'est tellement dommage.
Marie.
Voilà, moi, je suis très embêtée parce que je crois que je n'ai pas du tout compris le projet du spectacle. En tout cas, je suis sortie de ce spectacle en disant mais qu'est-ce qu'a voulu faire la metteuse en scène? Franchement, j'ai regardé avec attention, j'étais vraiment présente au projet. Je me suis dit, elle veut dire quelque chose. En plus, il y a beaucoup de vouloir dire. Donc je voyais bien qu'on voulait me dire quelque chose, mais j'ai pas compris. Et le principal défaut que j'y vois, en tout cas pour moi, c'est que j'ai eu l'impression permanente de voir 2 spectacles, une mise en scène et de l'autre côté un opéra avec un orchestre et des chanteurs, mais jamais les deux ne se sont mêlés.
Alors on va écouter un extrait de cet Orlando.
Thank you.
Voilà, Orlando d'Endel, mise en scène par Jeanne Desoubou, direction musicale Christophe Rousset, c'est au Théâtre du Châtelet. Zoé, c'était beau cette expression, vous avez dit qu'il n'y a pas assez d'amour pour le baroque dans ce spectacle.
Il n'y a pas assez d'amour pour le baroque. En fait, le baroque, il faut quand même rappeler ce que c'est, et notamment ce baroque-là, on est à la fin du baroque, c'est Endel qui compose un opéra en italien à Londres où il vient d'imposer la forme classique de l'époque, c'est-à-dire l'opéra seria, qui est un opéra qui n'est pas l'opéra bouffe de Rameau ou l'opéra ballet, qui est un opéra qui enchaîne ce que vous entendez là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les arie da capo, qui sont des motifs qui se répète avec la même phrase A, B, B, A, qui en l'occurrence là repose sur 5 interprètes uniquement sur 4 heures, dont un seul homme qui est la basse, qui est Zoroastre, le grand magicien, qui devient un gardien de musée dans cette mise en scène, et qui actionne les personnages d'un musée qui dorment. On a vu ça 10 000 fois, et à la rigueur c'est pas ça le plus grave, avec un argument qui est adapté de l'Arlando Furioso, qui est la grande œuvre de la Renaissance de l'Ariosto, c'est la grande œuvre italienne que le public de l'époque connaît absolument par cœur, donc il n'a pas besoin qu'on lui explique, il n'a pas besoin qu'on lui raconte, on a le droit de resserrer. Orlando, qui est un combattant, qui est amoureux d'une femme qui, à un moment donné, ne l'aime plus et qui, du coup, devient fou. Et évidemment, le baroque se prête très très bien. L'écriture d'Endel, bon, elle a des petits problèmes avec l'italien, parce qu'initialement, il écrivait en anglais. Et Senesino était tellement mauvais en anglais qu'à ce moment-là, pour cet opéra, il se remet à écrire en italien. Ça donne des choses un peu étranges. Mais c'est une musique sublime, si tant est qu'on ait la chance de pouvoir l'apprécier. Le spectateur peut toujours être un peu surpris par deux choses. C'est que comme ça repose sur 5 interprètes qui vont chanter en permanence. Et bizarrement, et pas si bizarrement que ça, l'Orlando, qui est tenu par un rôle de femme, à l'époque c'était un castrat, donc aujourd'hui c'est une mezzo-soprane, et pas si présent que ça en fait, à part à la fin. Donc il y a essentiellement 4 femmes, dont une mezzo-soprane qui joue un rôle d'homme, donc 2 sopranes, un mezzo-soprane, un autre mezzo-soprane, qui vont chanter en continu. Donc déjà cet opéra est très étrange parce qu'il commence avec des gens qui chantent du baroque, si vous n'êtes pas habitué ça peut être étrange, mais c'est sublime, et qui commencent très très bas, parce qu'ils ont un déploiement de la voix, parce que comme ils sont censés tenir très longtemps, c'est vraiment une espèce de truc qui se goûte sur la longueur. Le livret, évidemment qu'il y a des problématiques pour un spectacle moderne, pour des gens, on avait des classes de gens qui sont en cinquième qui étaient dans cette salle, parce que on est encore, une fois, on en a déjà beaucoup parlé ici, dans ces spectacles baroques, sur des référentiels de la Renaissance, etc. Et pour mettre en scène ce genre de spectacle, il faut le dire, il faut aimer le baroque. Si vous faites de la modernité, effectivement.
Mais en quoi elle n'aime pas le baroque là?
Elle n'aime pas le baroque parce qu'elle nous dit bonjour, je vais vous tendre la main, petit public moderne qui ne connaît pas le baroque. Je vais vous montrer Zoroastre, le grand mage qui articule tout ça. En fait, c'est le gardien d'un musée et il va donner vie à des personnages de tableaux qui viennent de siècles différents. Et je vais vous raconter cette histoire en vous montrant que bah, vous êtes comme au musée, vous allez devoir vous intéresser à des choses d'un autre temps. Et puis tous ces gens, dans un deuxième acte hyper long, vont commencer à interagir par le truchement de petits-enfants qui ont été enfermés dans le musée, des enfants qui visitaient le musée, ils viennent du 93, ils comprennent rien, mais c'est pas grave, ils vont se mélanger aux personnages. Et en fait, je sens ce qu'elle veut faire, Jeanne Desoubou. Elle veut nous dire, regardez, je vous emmène dans ce monde, ouais. Et c'est un peu comme des personnages, et c'est pas grave, le livret, en fait, on va tous partir dans la beauté. Ça fait tout ce que c'est censé faire, ça ne le fait pas, parce qu'on reste à distance, en permanence. Et du livret, c'est pas grave, mais surtout de la musique. Or, on a ces gens qui donnent tout, parce que c'est hyper dur. Et cette beauté, qui est une beauté extrêmement délicate, extrêmement fine, extrêmement longue à opérer, et qui se dissout dans un propos de mise en scène, et non pas dans une mise en scène.
Vous avez entendu la musique, Marie?
Moi, j'ai trouvé... Alors, la musique, je l'ai trouvée sublime. D'ailleurs, par moments, pour l'entendre, je fermais les yeux. Parce que le problème de cette mise en scène, c'est qu'elle n'est pas simplement inoffensive. Parfois, vous savez, vous avez des mises en scène contemporaines qui finalement sont là, mais elles sont là, elles sont pas là, ça gêne pas, c'est pas grave, on peut apprécier la musique. Là, le problème, quand je parlais de vouloir dire, c'est que la metteuse en scène, elle veut passer un nombre de messages improbables dans cette mise en scène. Donc c'est tout ça est très pop, un peu rose bonbon. Les femmes, elles ont quand même des crinolines, mais les crinolines, elles sont roses et tie and dye. vous voyez, enfin il y a quand même une espèce de message de un truc très féminin, mais un peu féminin pop, mais un peu aussi guimauve. Ouais, j'ai trouvé ça assez guimauve, enfin finalement. Mais le propos du départ, qui était, de ce que j'ai compris, la désacralisation de l'art, c'est-à-dire qu'on est dans ce musée, c'est le soir, le gardien dit allez hop, tout le monde s'en va, et des enfants se font enfermer, et en fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils touchent les tableaux, ils décrochent l'épée qui est sur le mur, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un musée, ces enfants le font, on désacralise très bien, et qu'est-ce qui se passe? Orlando sort du tableau, donc là c'est la rose pourpre du Caire, on est vraiment dans
mais
un autre...
Ça.
Voilà,
c'est
bon, on est dans le
musée. C'est la nuit au musée Ben Stiller,
voilà, on se réveille, on pense à la nuit au musée.
C'est exactement ça. Bon, alors... sur ce, je me suis dit, ok, why pourquoi not? Pas, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Seulement, encore une fois, elle ne va pas du tout au bout de son propos, c'est-à-dire qu'on reste dans ces galeries de musée pendant tout le premier acte, c'est-à-dire très longtemps, mais en fait, le drame, lui, se poursuit dans un autre champ, alors soit derrière, dans un espèce de galerie-jardin qu'on voit, soit devant, mais en fait, il n'y a pas d'interaction entre le musée qu'on voit et ce drame qui, lui, se situe dans une époque, disons, indéterminée, à part que ces enfants, qui sont quand même très pénibles, il faut que je le dise, moi, j'étais très agacée parce
c'est
que
pas on n'a pas le droit de taper sur les enfants,
c'est vrai, mais c'est pas de leur faute. Mais parce que moi, j'ai eu l'impression tout le long qu'ils n'étaient pas dirigés. Dans le
ils
sens où j'ai quand même eu l'impression qu'on était dans une répétition générale ou un spectacle pas abouti, pas fini. Et ces enfants, ils errent, ils se moquent. Donc, par exemple, Orlando chante. On a entendu, c'est des airs magnifiques, techniques.
Tellement dur.
C'est très beau. Et donc, vous avez ces deux gamins magnifiques à côté qui font des grimaces et qui se moquent de cet air d'opéra. Comme si, en fait, on s'en fout, on peut chanter comme ça, mais on a le droit de se moquer. Je vois bien ce qu'elle veut dire, mais je trouve ça tellement à côté et tellement pauvre que, en fait, ça nous fait complètement sortir. Et ça, en effet, ne satisfait pas ce qu'elle voulait faire au départ.
Zoé, dernier mot.
Vraiment, dernier mot. On vient de les citer. Varlikovsky et Barikovsky, c'est des mecs qui font des mises en scène modernes avec du baroque et il se passe quelque chose. Ça pose une question. Ce genre d'opéra, effectivement, que le livret est compliqué, on pourrait se dire que ça pourrait être des mises en scène où on part complètement, on va ailleurs, il y a un tableau, il y a des ambiances méditatives. Elle y parvient à la fin dans l'air de la folie. La scénographie devient belle. On arrive à se concentrer un peu plus sur la musique. Si on veut faire découvrir du baroque à des publics qui sont loin, qui sont pas habitués, si on veut sortir de la mise en scène classique, peut-être faut-il faire ce qu'on se permet de faire avec des Ibsen, par exemple, des pot-pourris, des collages, prendre un parti pris qui est vraiment de dire on va se débarrasser du livret et pas travailler contre lui. Je tiens quand même à dire que ça vaut le coup, si vous aimez ça, et même si vous n'aimez pas ça, d'aller voir, parce qu'on l'a pas dit, mais les 4 personnes, les 5 personnes qui tiennent ce spectacle sont des vocalistes et des actrices, Dieu merci, hors pair. Si on s'accroche à elles, on peut goûter la beauté de ce spectacle.
Zoé Sfez, Marie Sorbier, merci beaucoup. C'était Orlando de Handel et c'est au Théâtre du Châtelet jusqu'au 2 février. Évidemment, les infos, les références, tout ça, c'est sur la page des Midis de Culture.